Alors, imaginez qu'on vous demande de vous présenter. Par quoi est-ce que vous commenceriez? Nom, prénom, âge, situation matrimoniale, profession. À quel moment vous viendrait-il à l'esprit de mentionner votre nationalité si on vous demandait de vous présenter? Je ne sais pas vous, mais pour moi, peut-être jamais. Et à quel moment vous viendrait-il à l'esprit de mentionner votre allégeance à Jésus, si toutefois vous êtes chrétien cet après-midi? Il y a quelques années, le gouvernement de notre pays a jugé qu'il y avait en France un déficit de sentiment d'identité nationale. Le gouvernement de l'époque a donc créé un ministère appelé Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Et le but de ce ministère, d'après un décret de l'époque, était entre autres, je cite, de participer à la politique de la mémoire et à la promotion de la citoyenneté et des principes et valeurs de la République. Autrement dit, on a estimé que pour produire des bons citoyens, il fallait qu'il y ait une meilleure connaissance de l'histoire de la France et des valeurs que la France a héritées de son histoire. Il fallait donc que l'identité nationale du peuple français soit mieux définie et mieux mise en avant, tout cela pour le bien du pays. Nous souffririons donc, chers amis, en tout cas si vous êtes français, nous souffririons donc d'un déficit de sentiment d'identité nationale. Ma question est la suivante. Est-ce aussi le cas en tant que chrétien? Écoutez bien la question. Les chrétiens, en tant que peuple de Dieu, en tant que nation sainte, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre, les apôtres, en tant que peuple de Dieu, ont-ils une identité nationale? En tant que nation sainte, une identité nationale qui mérite d'être clairement reconnue et mise en avant pour le bien de l'Église. Et comme on va le voir, je l'espère ce soir, la réponse est oui. La réponse est oui. Mais la question subsidiaire évidemment, c'est la suivante. À quel point avez-vous conscience de l'identité nationale du peuple de Dieu, et à quel point cette identité nationale du peuple de Dieu, de la nation sainte qu'est l'Église, conditionne-t-elle votre comportement? Alors aujourd'hui, on va démarrer une série de messages, une série de prédications sur un livre très connu de l'Ancien Testament, à savoir le livre de l'Exode. C'est un livre très connu parce que ce livre contient des histoires très connues. L'histoire de Moïse, des 10 plaies d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, des 10 commandements, etc. Et nous allons, au cours des mois qui viennent, étudier les 19 premiers chapitres de ce livre. Et vous comprendrez sans doute en cours de route pourquoi, pour cette étude, pour cette série, nous nous arrêterons au chapitre 19. Mais avant d'aborder cette étude, il faut comprendre une chose très importante. Une chose très importante, et je ne vais pas le répéter à chaque fois, donc écoutez bien. C'est que le livre de l'Exode s'inscrit lui-même dans une série de 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, que Moïse a écrit à un moment particulier de l'histoire des Israélites, dans le but justement, vous savez quoi, d'asseoir solidement l'identité nationale du peuple de Dieu. Moïse a livré ces récits aux Israélites pendant qu'ils étaient dans le désert, entre l'Égypte et la terre promise. Et Moïse leur a livré ces récits peu de temps avant qu'ils entrent en terre promise, donc vers la fin de leur séjour dans le désert. Ça fait, à ce moment-là de l'histoire, ça fait une quarantaine d'années que le peuple est sorti d'Égypte. Et pendant ces 40 ans, on a pu s'apercevoir d'un vrai problème, et d'un sérieux problème. C'est que le peuple de Dieu, est enclin à se détourner de Dieu. Alors ça, c'est un problème quand même. Quand le peuple de Dieu se trouve enclin à se détourner de Dieu. Voilà ce qu'on a découvert pendant cette quarantaine d'années passées dans le désert. C'est un problème si grave que même une fois arrivé en vue de la terre promise, à quelques jours seulement, quelques kilomètres seulement de leur destination, eh bien, le texte biblique nous rapporte que le peuple s'est rendu coupable d'une débauche et d'une idolâtrie si grave que Dieu, tenez-vous bien, a ordonné que tous les chefs du peuple soient pendus afin que la colère ardente de l'Éternel soit détourné. Et cette histoire, on la découvre dans le livre des Nombres, chapitre 25. Vous pourrez voir ça plus tard si cela vous intéresse. Et c'est dans ce contexte, vous voyez, dans ce contexte quelque peu problématique d'un peuple de Dieu qui a tendance à se détourner de son Dieu, que Moïse écrit les 5 premiers livres de la Bible et les donne aux Israélites. Ce que Moïse veut, c'est qu'à travers ces livres, eh bien, les Israélites aient un solide fondement sur lequel s'appuyer pour à la fois connaître et comprendre leur raison d'être en tant que peuple de Dieu, et pour savoir par conséquent comment se comporter en tant que peuple de Dieu. Pour Moïse, vous voyez, l'identité nationale du peuple de Dieu doit conditionner le comportement du peuple de Dieu. L'identité nationale du peuple de Dieu doit conditionner le comportement du peuple de Dieu. Et cela est encore vrai pour nous aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer en long, en large, en travers, mais d'après la Bible, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament ne forment qu'un seul peuple. Qu'un seul peuple. Le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué, pour reprendre une expression biblique. Autrement dit, notre identité nationale, en tant que chrétien, en tant que nation sainte, c'est une expression du Nouveau Testament pour désigner l'Église, notre identité nationale ne remonte pas seulement à ce fameux jour de la Pentecôte quand Dieu a déversé son esprit sur les disciples réunis, mais notre identité nationale remonte plus loin que cela. Elle remonte jusqu'à la naissance du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et cette naissance du peuple en tant que peuple, c'est justement ce qui occupe le premier chapitre du livre de l'Exode. J'insiste, mes amis, sur cette continuité entre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, parce que c'est une réalité dont il faut impérativement tenir compte pour bien comprendre comment un récit comme celui que nous sommes sur le point de lire eh bien, s'applique à nous aujourd'hui. Et ce principe sera utile pour toute notre étude sur les chapitres 1 à 19 du livre de l'Exode, et c'est pourquoi, d'ailleurs, cette introduction est un peu plus longue que d'habitude. En tout cas, à travers ce chapitre qu'on est sur le point de lire, eh bien, Moïse veut que le peuple comprenne les circonstances de son apparition en tant que peuple, et qu'en comprenant ces circonstances, eh bien, les Israélites soient incités à rester attachés à Dieu. Et cet après-midi encore, je l'espère en tout cas, si vous comprenez bien, grâce à notre étude de ce texte, si vous comprenez bien dans quelles circonstances le peuple de Dieu est apparu dans l'histoire, alors, je l'espère, vous serez encouragés vous aussi à vivre en conformité avec qui vous êtes en tant que chrétien et avec ce à quoi vous êtes appelés en tant que chrétien. Et il y a 3 choses que Dieu veut nous faire comprendre dans ce texte. Vous avez le plan à l'intérieur du bulletin. D'abord, que c'est lui qui nous a suscités, c'est Dieu qui nous a suscités en tant que peuple conformément à son plan. Deuxièmement, que notre identité, notre vocation en tant que peuple s'inscrivent en opposition avec des forces adverses. Et troisièmement, que notre existence en tant que peuple implique un engagement personnel. Alors si vous êtes prêts, on va lire le texte qui se trouve donc au premier chapitre du livre de l'Exode, qu'on va lire en entier. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà que le peuple des Israélites qui est plus nombreux, le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. » Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te supplions de venir à notre aide au moment où nous ouvrons ta parole, que nous la lisons et que nous l'étudions ensemble. Seigneur, permets que par ton esprit, nous puissions entendre ta voix et permets que la vérité de ta parole soit appliquée à notre cœur et à notre vie pour la gloire de ton nom et du nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Moïse veut donc nous faire comprendre dans quelles circonstances le peuple de Dieu est apparu dans l'histoire, pour nous inciter à rester fidèles à notre identité et à notre mission en tant que chrétiens. Et la première chose qu'il nous fait comprendre, c'est que l'apparition du peuple de Dieu s'inscrit dans un plan précis. Alors les versets 1 à 7, première partie de ce chapitre, les versets 1 à 7 servent à la fois d'épilogue pour le récit qui a précédé, c'est-à-dire pour le livre de la Genèse, et ils servent aussi ces versets de transition pour le récit qui débute dans le livre de l'Exode. Et à la fin du livre de la Genèse, mes amis, les Israélites sont déjà en Égypte, mais il s'en est passé des choses avant qu'ils arrivent en Égypte. On a appris notamment, alors c'est un survol assez rapide du livre de la Genèse, mais on a appris notamment que du fait de sa désobéissance, l'homme avait perdu sa communion avec Dieu. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Mais on a appris aussi que Dieu s'était aussitôt engagé à faire quelque chose pour délivrer l'humanité et pour rétablir cette communion. Il a d'abord fait une promesse à Ève et ensuite il va faire une promesse à un homme particulier, un homme qu'il a appelé d'entre tous les hommes qu'il y avait là à cette époque-là, un homme du nom d'Abraham. Et Dieu lui fait une promesse extraordinaire, une promesse sans précédent, ainsi qu'à sa postérité, ainsi qu'à sa descendance. Qu'est-ce qu'il lui promet ? Il lui promet un territoire béni, où habiter, un peuple nombreux et une relation privilégiée avec Dieu lui-même. Et il a dit à Abraham que la réalisation de cette promesse entraînerait une grande bénédiction pour le monde entier, qui, rappelez-vous, a perdu sa communion avec Dieu son Créateur. Okay ? Alors là, on est au chapitre 12 de la Genèse, et à partir de là, qu'est-ce qu'on attend ? Ben, on attend qu'Abraham ait des enfants. Et on attend que les enfants d'Abraham, eux, à leur tour, aient des enfants, et que la famille grandisse. Et tout au long de l'histoire, la même promesse est répétée, martelée même, tout au long donc du récit. Mais ça ne se passe pas si facilement que ça. Finalement, Abraham a un fils, nommé Isaac. Et Isaac, à son tour, a un fils du nom de Jacob, donc le petit-fils d'Abraham. Et le nom de Jacob est changé à Israël. Israël, quant à lui, le petit-fils d'Abraham, ça vous suivez ? Israël, quant à lui, a 12 fils, qui vont devenir les pères des 12 tribus d'Israël. Et par la providence de Dieu, et là on arrive à la fin du livre de la Genèse, par la providence de Dieu, toute cette belle famille, cette belle famille dans le sens d'une famille qui est belle, se réfugie en Égypte à la fin du livre de la Genèse pour échapper à une terrible famine. Tout cela par la providence de Dieu. Alors c'est passionnant, je vous invite vraiment à lire, à relire même cette semaine tout le livre de la Genèse. Vous pouvez le faire, hein, c'est pas si long que ça, il y a 50 chapitres, vous pouvez le faire d'ici le dimanche prochain. Et alors, combien sont-ils lorsqu'ils se réfugient en Égypte pour échapper à cette famine ? 70. Nous dit ce texte. Le nombre de 70 est également donné dans le livre de la Genèse. Ok. Au début du livre de l'Exode, donc, on a une grande famille, mais on n'a pas un peuple encore. On attend encore l'apparition d'un peuple qui soit nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, pour reprendre une des promesses que Dieu a faites à Abraham. On attend encore la terre promise. Ils ne sont pas en terre promise, ils sont en Égypte. Et on attend encore qu'il y ait un culte un peu plus organisé pour représenter cette relation privilégiée entre Dieu et son peuple. Moïse donc commence par faire un état des lieux, là dans les versets 1 à 7. Et ensuite, enfin, dans les versets 1 à 5 pour être plus précis, et ensuite il ajoute deux versets, les versets 6 et 7, qui à eux seuls couvrent une période d'environ 400 ans. D'accord ? Les versets 6 et 7 couvrent une période d'environ 400 ans. Et c'est le verset 7 qui décrit ce qui s'est passé pendant ces 400 ans en Égypte. Et là, Moïse, il utilise une extraordinaire redondance pour nous faire comprendre que la famille de 70 personnes est devenue un peuple très nombreux. Relisons ce verset 7. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus puissants et le pays en fut rempli. Cinq expressions distinctes pour exprimer une réalité, c'est que le peuple est devenu très, très, très nombreux en l'espace de ces 400 ans, de 70 personnes à un peuple très nombreux. Très, très nombreux. Et en nous racontant cela, Moïse est en train de faire quoi ? Il est en train de nous faire comprendre que Dieu est en train de réaliser ce qu'il a promis. Il est en train de réaliser ce qu'il a promis. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais Dieu est toujours en train de réaliser ce qu'il a promis. Jusqu'alors, ce n'était qu'une famille sainte, on pourrait dire, la famille d'Abraham jusqu'à la fin du livre de la Genèse. C'est la famille d'Abraham, c'est la famille d'Israël, c'est ses 12 fils, leurs femmes, leurs enfants. Mais maintenant, un peuple est né, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ce peuple n'est pas apparu par hasard, voilà ce que nous fait comprendre Moïse. C'est l'œuvre de Dieu. L'existence du peuple de Dieu, vous voyez, s'inscrit donc dans un plan précis, le plan de Dieu. Si vous êtes chrétien cet après-midi, sachez donc que vous faites partie d'un peuple dont l'existence s'inscrit dans un plan précis, un plan divin. Vous faites partie d'un peuple qui est apparu en vertu du plan de Dieu, qui n'est pas apparu par hasard. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un flash mob ? Parce que c'est qu'un flash mob, je sais pas, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un flash mob. C'est quelque chose dont on entend régulièrement parler depuis 5 ou 6 ans. Un flash mob, c'est un rassemblement à la base confidentiel de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d'avance dans un but essentiellement ludique. D'accord ? Parfois pour, dans un but publicitaire. Mais bref, le premier flash mob en France a eu lieu en 2003 à Paris. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé, comme ça, vous aurez une meilleure idée de ce que c'est qu'un flash mob. Une centaine de personnes qui s'étaient inscrites à l'avance sur un site internet ont reçu individuellement des instructions qui leur expliquaient ce qu'ils devaient faire. Ils ont donc suivi ces instructions confidentielles, ces instructions secrètes, et ils se sont rendus à une heure précise, un jour précis, dans le hall du musée du Louvre, okay, en marchant tous très rapidement, en parlant au téléphone. Et soudain, à un signal donné, ils se sont tous immobilisés. Ils ont tous regardé en l'air, ils ont tous applaudi, et ensuite ils sont repartis. Centaines de personnes. Vous voyez, ça c'est un flash mob. Voilà ce que c'est, par exemple, en tout cas. La particularité, en tout cas, du flash mob, c'est qu'on a l'apparition d'un nombre inhabituel de personnes dans un lieu donné. Et c'est que la présence de cette foule s'inscrit dans un plan précis convenu d'avance. Voilà la particularité d'un flash mob, l'apparition d'un nombre inhabituel de personnes dans un lieu donné, et la présence de cette foule s'inscrit dans un plan précis convenu d'avance. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un peu la même chose avec l'apparition du peuple de Dieu. Voilà qu'en l'espace de 400 ans, un groupe de 70 personnes en Égypte est devenu un peuple de plus de 600 000 personnes. C'est une croissance inhabituelle. Je peux vous le dire, je me suis amusé à faire un peu le calcul. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes de croissance tous les ans ? C'est assez énorme. C'est une croissance inhabituelle qui s'inscrit aussi dans un plan précis convenu d'avance, convenu par Dieu. Moïse veut donc que les Israélites comprennent qu'ils n'existent pas en tant que peuple par hasard. Ils ne sont pas dans le hall du Louvre, si j'ose dire, pour y admirer simplement l'architecture. Non, ils sont là en fonction d'un plan précis convenu d'avance. Ils y sont là, à cet endroit, et bien en l'occurrence en Égypte, pour une autre raison, pour autre chose. Dieu est en train de réaliser son projet et il est important que le peuple de Dieu ait conscience de ce projet pour que cela conditionne leur propre perspective sur leur propre raison d'être. Et en ce qui nous concerne cet après-midi en tant que chrétiens, je me demande si nous avons suffisamment conscience du projet de Dieu qui s'accomplit inexorablement depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, en passant par la chute de l'homme, en passant par l'appel d'Abraham, la naissance du peuple en Égypte, la libération d'Égypte, l'entrée en terre promise, la déportation à Babylone, le retour d'exil, la venue du Messie Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, le déversement de l'Esprit à la Pentecôte, etc., etc. Est-ce que nous avons conscience du projet de Dieu, de la nature du projet de Dieu, du projet que Dieu est en train de réaliser inexorablement depuis le début et qu'il va continuer à réaliser jusqu'à la fin? Est-ce que nous avons conscience de ce qui se passe? Notre existence en tant que peuple de Dieu s'inscrit dans le plan précis de Dieu et nous avons besoin de connaître ce plan pour pouvoir comprendre qui nous sommes et pourquoi nous existons. Et comment connaître ce plan, sinon en étudiant la Bible? Et voyons ce qui se passe dans la suite du texte. La deuxième chose que Moïse nous fait comprendre concernant les circonstances de la naissance du peuple de Dieu, je considère, entre parenthèses, que le peuple de Dieu est né ici, au premier chapitre de l'Exode, en tant que peuple. Et je préfère, jusqu'à la fin du livre de la Genèse, parler de la famille sainte d'Abraham. Mais ici, on a l'apparition d'un peuple de 70 personnes à 600 000, d'accord? Donc, la deuxième chose que Moïse nous fait comprendre concernant les circonstances de la naissance du peuple de Dieu, c'est que notre identité et notre mission en tant que peuple de Dieu s'inscrivent en opposition avec des forces adverses. Et ça, c'est une réalité dont il faut prendre conscience également. Depuis le début, le peuple de Dieu est confronté à une rude opposition. Depuis le début. Ce que Moïse nous décrit au verset 8 à 14 maintenant, c'est le début d'une rivalité qui va s'intensifier de plus en plus au cours des chapitres qui viennent. Au cours des chapitres qui viennent dans le livre de l'Exode. Cette rivalité oppose en l'occurrence le pharaon, c'est-à-dire le roi d'Égypte, qui incarne peut-être plus largement les autorités égyptiennes. Donc une opposition entre le pharaon et Dieu, évidemment, vous l'avez compris. Le roi d'Égypte, voyez-vous, a un projet contraire à celui de Dieu. Et ces quelques versets sont très intéressants parce qu'on voit que le pharaon s'oppose aux trois aspects principaux de la promesse que Dieu a faite à Abraham. D'abord, le pharaon ne veut pas que le peuple grandisse en nombre, verset 10. « Allons, montrons-nous habile à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, oulala !» Le pharaon ne veut pas que le peuple grandisse en nombre. Et pourtant, Dieu avait promis à Abraham que le peuple issu de sa postérité serait aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable sur le bord de la mer. D'accord ? Ensuite, le pharaon ne veut pas que les Israélites quittent le pays. Dans la deuxième partie du verset 10, « S'il survenait une guerre, ils se joindraient à ceux qui nous haïssent pour nous combattre. » Et puis ensuite, il serait tranquille, il quitterait le pays. Il passerait à autre chose. Alors vous avez peut-être une traduction un peu différente, je sais que ce verset est un petit peu débattu, mais en tout cas, on a bien l'impression que le pharaon ne veut pas que les Israélites quittent le pays, alors que Dieu compte faire installer son peuple dans une terre, dans un territoire qui lui a promis, un territoire béni, n'est-ce pas? Et enfin, le pharaon impose aux Israélites d'être à son service, verset 13. Les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Le pharaon impose donc aux Israélites d'être à son service alors que Dieu compte prendre les Israélites à son service. Et le mot qui est traduit par servitude ici en hébreu a un sens plus large que le mot servitude en français qui veut dire aussi service, culte, adoration. Vous voyez ? Et dans d'autres passages de l'Exode, ce verbe, ce même verbe est employé pour décrire la relation d'Israël, du peuple de Dieu, à Dieu, quand il rend un culte à Dieu. Donc le pharaon veut que le peuple soit à son service, Dieu veut que le peuple soit à son service. Le pharaon s'oppose donc aux trois aspects principaux de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette opposition est de plus en plus rude, comme cela est illustré notamment par les versets 12 à 14. Et dans ce verset 14, on a une nouvelle redondance, destinée cette fois à souligner l'intensité de l'opposition à laquelle le peuple de Dieu fait face. Relisons ce verset 14. « Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. » Ce que Moïse veut faire comprendre au peuple, c'est qu'il existe un antagonisme dans le monde. Un antagonisme entre le projet de Dieu et le projet des adversaires de Dieu. Telle est la réalité du monde dans lequel le peuple de Dieu est apparu. Dieu a des ennemis, et cela on l'a découvert depuis les premiers chapitres de la Genèse. Dieu a des ennemis et le peuple de Dieu doit en avoir conscience. Alors imaginez qu'un jour, vous vous réveillez en plein milieu d'une clairière, en pleine forêt, et vous êtes complètement amnésique. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là. Vos vêtements sont couverts de boue et vous avez une blessure au bras. Par terre, à côté de vous, il y a un fusil. Et puis vous regardez autour de vous, un peu inquiet, et tout d'un coup, vous entendez quelqu'un qui vous appelle depuis la forêt. « Par ici, par ici !» Vous scrutez les arbres et vous apercevez quelqu'un habillé tout en gris, à moitié caché derrière un arbre. Bon, bah, vous commencez à vous diriger vers lui, lorsque tout à coup, une autre voix se fait entendre derrière vous. « Non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, viens par ici, par ici !» Alors vous vous retournez, vous voyez quelqu'un d'autre, habillé tout en bleu cette fois, à moitié caché derrière un buisson. Et soudain, vous vous souvenez que vous êtes en pleine guerre de sécession aux États-Unis. Mais impossible de vous souvenir si vous combattez pour le nord ou pour le sud, pour les tuniques bleues ou pour les tuniques grises. Et quand vous êtes couvert de boue, vous ne pouvez même pas regarder votre propre uniforme pour vous faire une idée. C'est une situation délicate, non ? Mais vous voyez, bien souvent, en tant que chrétien, nous sommes un peu dans la même situation. Je m'explique. Nous sommes un peu amnésiques et nous oublions que nous vivons dans un monde où le projet de Dieu est en compétition avec le projet des adversaires de Dieu. Il y a une rivalité, il y a un antagonisme. Et même une guerre, c'est le langage de l'Écriture, hein, une guerre entre Dieu et ses ennemis. Il faut donc avoir conscience que notre identité et notre mission en tant que peuple de Dieu s'inscrivent en opposition avec des forces adverses. C'est ça que Moïse veut faire comprendre aux Israélites et qu'il veut nous faire comprendre aussi aujourd'hui. Le peuple d'Israël, voyez-vous, était enclin, on l'a dit en introduction, il était enclin à oublier cette réalité. Et par conséquent, il était enclin à tomber dans les travers des peuples environnants, notamment dans la débauche et dans l'idolâtrie. Et nous alors aujourd'hui, est-ce que nous avons conscience de cette réalité, de cet antagonisme dans le monde au point d'être vigilants, très vigilants, vis-à-vis des idées, du discours et des pratiques du monde qui nous environne ? Alors si Moïse rappelle au peuple de Dieu qu'il existe cet antagonisme dans le monde entre le projet de Dieu et le projet des adversaires de Dieu, c'est donc pour nous inciter aussi à ne pas baisser la garde, mais au contraire, à user de discernement pour reconnaître ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et pour savoir reconnaître, nous en tant que chrétiens, nous en tant que peuple de Dieu, quel est notre camp, c'est-à-dire le camp de Dieu, et pouvoir reconnaître quel est le camp de l'adversaire ou des adversaires de Dieu. Et Moïse va magnifiquement illustrer cette réalité dans la dernière partie de ce texte. Regardons cette dernière partie, les versets 15 à 22. Et les versets 15 à 22 nous montrent en effet que notre existence en tant que peuple de Dieu, non seulement premièrement s'inscrit dans un plan précis, le plan précis de Dieu, et non seulement deuxièmement s'inscrit en opposition avec des forces adverses, mais troisièmement, notre existence en tant que peuple de Dieu implique aussi un engagement personnel. Et c'est là que ça va nous concerner chacun individuellement. Dans ces versets, il y a deux personnes qui sont clairement montrées en exemple. Ce sont les deux sages-femmes des Hébreux. Moïse, dans ce texte, les célèbre comme de véritables héroïnes. Et on le voit cela parce qu'il mentionne leur nom à chacune, Shifra et Pua. Alors Jonathan, si vous avez une fille après Emma et que vous voulez la nommer après une héroïne de la Bible, je propose Pua, ou Shifra si vous préférez. Ah. Alors, elles sont nommées donc par leur nom, alors que vous avez peut-être remarqué, mais le pharaon, lui, il n'est même pas, son nom n'apparaît même pas. Et le mot sage-femme, encore une fois, est répété 7 fois en 8 versets. On voit que Moïse est en train de célébrer ces femmes, ces deux femmes, comme étant de véritables héroïnes. L'histoire est simple. On l'a lu tout à l'heure. Les autorités égyptiennes ordonnent que les bébés garçons des Hébreux soient tués à la naissance. Mais les sages-femmes trouvent un stratagème pour ne pas le faire, car elles craignent Dieu. Et parce qu'elles ont craint Dieu, nous dit le texte, plutôt que le pharaon, eh bien Dieu les bénit et leur donne à elles aussi une grande famille. Moïse nous fait comprendre que leur confiance en Dieu a entraîné leur défiance vis-à-vis du Pharaon. Leur confiance en Dieu a entraîné leur défiance vis-à-vis du Pharaon. Alors ces sages-femmes dans ce texte représentent l'application personnelle des principes qu'on a vus jusqu'ici. Consciemment ou non, ces sages-femmes ont assumé leur identité et leur mission, ou leur vocation, on pourrait dire, en tant qu'israélites. Elles ont agi personnellement en conformité avec leur uniforme, si vous voulez. Cela me fait penser à quelqu'un dans l'actualité qui n'a pas, semble-t-il, agi en conformité avec son uniforme. Il s'agit du capitaine du bateau qui s'est échoué la semaine dernière près des côtes italiennes. Alors beaucoup de gens, et bon, moi je ne me positionne pas par rapport à ça, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu aux informations, beaucoup de gens ont déploré le fait que ce capitaine a, semble-t-il, agi en totale contradiction avec ses devoirs en tant que capitaine, en totale contradiction avec son uniforme en tant que capitaine. Il aurait abandonné son bateau plusieurs heures avant que les passagers aient pu être évacués. Et vous voyez, du fait de son grade en tant que capitaine, du fait de son uniforme, cet homme avait une identité et une mission précise qu'il aurait dû assumer jusqu'au bout. Et bien du fait de leur grade aussi à ces sages-femmes, ou de leur uniforme si j'ose dire, en tant que membres du peuple de Dieu, et bien Shifra et Pua aussi avaient une identité et une mission précise, et elles les ont assumées. Elles ont craint Dieu plutôt que le Pharaon. Voilà comment Moïse résume la fidélité, l'obéissance de ces deux héroïnes. Elles ont craint Dieu plutôt que le Pharaon. Elles se sont fiées à Dieu plutôt qu'au Pharaon. Elles ont choisi le chemin de la fidélité plutôt que le chemin de la facilité. Elles ont choisi le chemin de la fidélité plutôt que le chemin de la facilité. Et nous, ce soir, si nous nous disons chrétiens, est-ce que nous assumons notre uniforme ? Nous avons une identité et une mission précise en tant que peuple de Dieu. Est-ce que nous nous comportons en conformité avec cette identité nationale, si je peux me permettre cette expression ? Est-ce que nous choisissons plus souvent le chemin de la fidélité ou le chemin de la facilité ? Voilà la question. Et si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, il y a aussi une question qui vous est posée à travers ce texte. Vous avez pu voir que Dieu a suscité son peuple conformément à son plan. Vous avez pu voir que l'identité et la vocation du peuple de Dieu s'inscrivaient en opposition avec des forces adverses. Et vous avez pu voir que l'existence du peuple de Dieu impliquait un engagement personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a suscité un peuple dans le but de bénir le monde entier. Comme il l'a promis à Abraham dans le livre de la Genèse. Et cette bénédiction, mes amis, promise au monde entier, par la descendance d'Abraham, cette bénédiction est venue en la personne de Jésus. Jésus a été la descendance promise, le vecteur par excellence de la bénédiction promise au monde entier. Il a été le Messie, et il est le Messie attendu, celui qui est issu du peuple de Dieu et qui est mort pour le peuple de Dieu et qui est ressuscité pour le peuple de Dieu. Il a fait tout cela pour délivrer le peuple de ses péchés et lui permettre d'entrer une fois pour toutes dans cette relation privilégiée qui, elle aussi, était promise à Abraham, la relation privilégiée entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, mes amis, et je m'adresse surtout à vous si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, sachez que n'importe qui peut intégrer le peuple de Dieu et entrer dans cette relation privilégiée avec Dieu par le moyen de la foi en Jésus. N'importe qui peut le faire. Et donc cet après-midi, cette proposition vous est faite, si vous n'êtes pas chrétien. Le peuple de Dieu, voyez-vous, c'est une nouvelle humanité faite d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été rachetés de leurs péchés et qui sont appelés à être un véhicule, ça marche mieux là, et qui sont appelés à être un véhicule de la bénédiction de Dieu auprès du monde. L'existence du peuple de Dieu appelle donc le positionnement de chacun, y compris de ceux qui n'appartiennent pas encore au peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez recevoir cette bénédiction, la bénédiction du salut éternel, en plaçant votre confiance en Jésus, mes amis. Alors permettez-moi de récapituler très rapidement. Est-ce que nous souffrons d'un déficit de sentiment d'identité nationale en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que peuple de Dieu ? C'est possible. comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, nous sommes aussi enclins à nous détourner de Dieu. En partie pourquoi ? Parce que nous oublions dans quelles circonstances Dieu nous a suscités en tant que peuple qui lui appartiennent en propre. Nous oublions que nous existons en vertu d'un plan précis. Nous oublions que nous existons dans le cadre d'un conflit qui oppose Dieu et ses adversaires. Et nous oublions enfin que nous devons prendre position à titre personnel. Mais si nous comprenons bien dans quelles circonstances le peuple de Dieu est apparu dans l'histoire, nous serons alors incités à vivre en conformité avec qui nous sommes en tant que chrétiens et avec ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons une raison d'être en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, et au fil des semaines et des mois qui viennent, nous aurons l'occasion de découvrir plus en détail, à travers l'étude donc de ces 19 premiers chapitres du livre de l'Exode, eh bien, nous pourrons découvrir plus en détail quelle est cette raison d'être qui est la nôtre en tant que peuple de Dieu et quels sont les enjeux importants de notre existence en tant que peuple de Dieu. Mais pour l'heure, je vous livre simplement cette parole de l'apôtre Paul. Le Christ Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen.